sur les ondes de CFAQ 88,3. Vous écoutez Littéralement Vôtre avec Albert Bourassa et Roxane Gaudreau. Bonsoir Roxane.
Bonsoir Albert.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, on est déjà rendu à l'avant-dernière émission de la saison.
L'avant-dernière, hein, parce que la dernière, ça va être notre spéciale correspondance 10 semaines.
Oh oui, puis aujourd'hui aussi, on va se déplacer un petit peu, hein, vraiment, Littéralement Vôtre se déplace à la fin de l'été puis fait le tour de l'Estrie un petit peu. Donc, tu l'as mentionné, la semaine prochaine, on va être aux correspondances des semaines. Donc, on va couvrir ce festival-là pour tout le monde qui ont le plaisir de nous écouter. Mais aujourd'hui, je suis parti en cavale avec un micro et je suis allé interviewer les personnes qu'on a élues à Sherbrooke parce que j'étais intrigué à savoir, ben, qu'est-ce qu'ils lisent, ces personnes-là? Tu sais, les personnes qu'on a élues, c'est quoi qu'ils ont lu? C'est quoi qui les a touchés? C'est quoi qui vient les chercher comme lecture?
Parce que les élus, ils lisent, c'est un peu comme tout le monde, tu sais, ils mangent, ils dorment, ils boivent, ils lisent.
Oui, c'est ça. Des fois, c'est plus difficile, ils ont moins de temps pour lire. D'autres fois, ben, s'ils ont des vacances, ah, ben, ils vont traîner un petit livre. Mais on apprend tout ça dans ces entrevues-là, qui vont suivre après la première chanson. On commence avec une nouveauté musicale. C'est En banlieue de Québec de Jérôme 50, qui est un album fantastique, son album Camp de vacances de Jérôme 49. Donc, on l'écoute à l'instant.
Réveillez-vous, ma gang de fous, en banlieue de Québec.
D'entendre Jérôme 50 et sa chanson La banlieue de Québec, qui, vous l'aurez compris, est une reprise d'une chanson de camp de vacances. Donc, l'armée mexicaine, canadienne, name it, ça dépend comment vous l'avez chanté avec vos jeunes. C'est quand même un très bon rappel d'années passées au camp.
Oh oui, ça vient nous toucher là, directement dans la nostalgie.
Sincèrement, je pense qu'il y a un dixième des étudiants de l'Université de Sherbrooke qui ont déjà animé dans un camp de jour.
Possiblement, oui.
Nous, on revient d'ailleurs sur notre thématique « Nos élus ». En premier lieu, Albert, tu es allé rencontrer les trois élus de Sherbrooke, au niveau municipal, au niveau provincial et au niveau fédéral. On a eu la chance d'aller parler à tous les paliers de gouvernement qu'on a élus ici en Estrie, mais à Sherbrooke précisément.
Oui.
Puis, dans le fond, c'était quoi un peu ton but, là? C'était pas de parler de politique, là.
Non, vraiment pas. Donc, je leur ai dit d'avance que ce n'était pas une entrevue politique. C'était vraiment juste pour connaître c'était quoi leurs intérêts littéraires. Parce qu'on a parlé de plusieurs sujets, là, au courant de la saison cet été. Et puis, je voulais savoir c'est quoi les sujets qu'eux autres, sur lesquels ils s'informaient, c'est quoi les histoires qui les avaient le plus touchés. Et s'il y avait un petit livre de plage pour cet été aussi.
Donc, on peut aller voir les réponses que nous a données à nos questions le maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier.
Donc, la première œuvre que vous m'avez transmise, justement, c'est la biographie du commandant Piché.
Oui.
Laissez-moi sortir mes petites données ici, là, qui est sortie en 2010 chez Libre Expression et qui a été rédigée, entre autres, par Pierre Caillouette. Excusez-moi. Pourquoi vous avez choisi cette œuvre-là en particulier?
C'est une source d'inspiration. Écoute, à chaque fois qui avait des passages dans son livre, et j'invite les gens à aller lire son livre aussi, c'est sûr que c'est une source d'inspiration. Il réussit toujours, malgré les épreuves qui arrivaient, quand même assez importantes. Hein? Alors oui, bon, vous allez lire dans son livre, oui, il a déjà fait du transport de marchandises, peut-être illicite, mm-hmm. et tout ça. Ça n'empêche pas que la personne réussissait quand même à s'en sortir malgré les efforts ou plutôt les problèmes qui arrivaient directement, tu sais. Fait qu'on réussit à s'en sortir. Dans la vraie vie, c'est ça. Oui. Alors, lorsqu'il arrive certains problèmes, écoutez, on réussit à s'en sortir. Il faut voir la lumière au bout du tunnel, hein. C'est le cas de le dire. Donc, on peut avoir des difficultés, mais on réussit à s'en sortir. Écoute, la personne, hein, dans le dernier chapitre, a réussi, dans le fond, à sauver énormément de gens. Puis, il s'est pris tout de suite en main. Il arrivait vraiment une grosse difficulté. Il n'a plus de moteur, là. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, ça prenait des gens quand même d'expérience. Et ça, c'en est une personne d'expérience, oui, mais qui a réussi à bien s'en sortir. Alors, je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour moi, là, lorsque il y a des gens qui, dans cette situation-là. Puis, dans les biographies, on retrouve souvent ça. Alors, c'est vraiment bien. C'est une bonne expérience pour les gens, là.
Et quel aspect de sa vie, du commandant Piché, vient plus vous chercher? C'est sûr, il y a la persévérance, mais est-ce qu'il y a une histoire en particulier?
Bien, malgré les épreuves, oui, malgré les épreuves qu'on y retrouve, réussit toujours à s'en sortir.
OK.
Puis c'est une personne, hein, qui se prenait en main quand même, là. Oui, il y a eu des bonnes personnes alentour de lui aussi. On le voit, sa famille aussi a pu parler, lui redonner confiance aussi à un moment donné. Puis c'est ça, hein, une famille. Puis quand je dis famille, c'est pas nécessairement les personnes conjointes, enfants, c'est les amis proches aussi. Mm-hmm. Alors on voit qu'il y avait quand même des gens qui ont donné un bon coup de main.
Et ce livre-là, vous l'avez lu en quelle époque de votre vie? À quel moment?
Au moment où il avait sorti le film, hein. Okay. C'est sûr que, bon, ça a sorti pas tellement longtemps après l'incident. C'est sûr qu'on avait... J'ai eu intérêt pour moi à aller le voir. Premièrement, j'ai vu le film.
D'accord.
Et ensuite, le livre est sorti aussi.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez préféré le livre ou le film?
Ben, le film, ça se résume en 1h30 environ.
Oui,
bon,
oui,
là.
C'est certain.
C'est,
certain.
C'est sûr que le livre, ben, c'est intéressant. Je ne l'ai pas lu d'un bout à l'autre en même temps. Là. Mm-hmm. Je lisais à temps perdu, mais quand même, moi, j'ai trouvé d'autres facettes qu'on ne retrouvait peut-être pas dans le film.
Oui, oui, oui. Parfait. Puis l'autre livre que vous m'avez mentionné, oui. C'est Bertrand Godin, Piloter son avenir. Rédigé par Charles-André Marchand, publié chez ADA en 2017. Donc, c'est quand même récent comme biographie. Oui. Pourquoi avoir choisi cette œuvre-là? Parce que c'est quelqu'un dont je ne connais pas du tout, là, Bertrand Godin.
Vous auriez intérêt à le connaître. C'est vraiment une bonne personne. Je vous le dis dans la vie, vraiment une bonne personne qui se donne énormément pour des causes en plus, connaissant un peu Bertrand, là. Alors, c'est sûr que lorsque le livre est sorti, j'étais vraiment fier. Premièrement, je suis allé le voir aussi, me le faire signer.
D'accord.
Ici même à Sherbrooke, hein?
Okay.
Alors, c'est là que j'ai acheté son livre au Salon du Livre. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir le Salon du Livre. C'est là qu'on retrouve beaucoup de nouveautés qui arrivent sur le marché. Puis, tout de suite, quand j'ai vu Bertrand, ben, j'ai eu le goût de lire son livre. Pourquoi? Ben, je connaissais un petit peu son histoire. Puis, ça venait me toucher un peu. Parce que moi aussi, j'ai été longtemps dans le monde sportif. Bon, peut-être pas automobile, mm-hmm. mais dans les motos. Vous voyez, hein? Il y a une similitude là, par rapport aux deux. Puis, il y avait une persévérance. Puis, moi, je sais la persévérance, c'est quoi? Faut jamais lâcher. Parce que, oui, malheureusement, il arrivait des incidents, des fois, à Bertrand et tout ça, mais il lâchait pas. Il voulait gagner le championnat, hein? Mm-hmm. Alors, il s'est rendu très, très loin. Puis, évidemment, mon père faisait également du go-kart. Donc, il avait la chance de peut-être le côtoyer à l'époque un peu. Alors, c'est sûr que j'avais intérêt, là, pour moi, encore une fois, d'aller lire le livre là, au niveau de la détermination, persévérance. Et moi, je suis une personne qui aide beaucoup la persévérance scolaire.
Okay.
Je trouve qu'il y a un lien à faire entre les deux.
Okay.
C'est de montrer aux jeunes qu'il faut toujours aller jusqu'au bout. Il arrive, comme je l'explique souvent, des épreuves, mais il faut passer par-dessus ça et aller jusqu'au bout. Comme mère, je peux vous dire que ça arrive. Alors, dans mon métier d'aujourd'hui, oui, je l'ai vécu à l'époque, mais je le vis encore aujourd'hui. Puis, il faut jamais s'en faire. Il y a toujours des gens qui sont prêts à nous aider.
Et puis, pour le monde qui ne connaisse peut-être pas Bertrand Godin comme vous, est-ce que vous avez une histoire, un récit ou bien un exemple de persévérance qui est donné dans la biographie qui vous a touché personnellement ou un petit peu plus, qui vous a plus marqué comme chapitre?
Ben, c'est plus les efforts, la volonté, parce que c'est sûr qu'il est parti au pied de l'échelle, ce qui n'est pas toujours facile au niveau des commanditaires. Lorsque tu es rendu à un niveau où tu veux monter en course automobile, ben, je vais parler pour Bertrand, c'est sûr qu'il avait besoin d'aide, de la parenté, les parents, les amis, ça c'est une chose, j'en parle souvent, mais on a besoin de commanditaires aussi rendus là qui vont donner de bons coups de main financiers pour pouvoir aller plus loin. Puis il a pu démontrer son talent. Hein? Il a pu démontrer son talent. Puis je suis fier de Bertrand où il s'est rendu. Puis maintenant, là, il redonne. hein, il a lâché un peu la course automobile, mm-hmm. quoi qu'on le voit encore un peu, là, mais professionnellement, je pense qu'il a quitté pas mal là, ce sport-là. Mais il faut savoir qu'il s'intéresse toujours à donner un coup de main aux gens. Justement, il en parle de persévérance, mm-hmm. Bertrand. Autant au niveau de la maladie, hein, parce qu'il aide certaines personnes aussi à ce niveau-là. Hein. Je l'ai vu tout récemment pour une cause pour le cancer, okay. là, le cancer de la prostate, entre autres. Ouais. Là. Alors, c'est sûr que Bertrand, vous voyez, il redonne. Et c'est ça qu'il faut faire aussi. Lorsqu'on a eu des bons passages, ben pourquoi pas donner la chance aux autres et s'en servir de notre expérience et leur faire valoir à eux, hein, qu'ils puissent aller un petit peu plus loin.
Parce que aussi, j'ai lu là, vite, qu'il venait d'un milieu un petit peu défavorisé,
oui,
je crois. Donc,
ouais.
Qui a réussi à monter. Est-ce que cette partie-là aussi de lui, pour utiliser l'expression anglaise, là, from rags to riches, là,
oui.
Donc
c'est une bonne expression.
Torchon en bon québécois, ouais. Vers la richesse.
C'est une bonne expression. Je suis passé, peut-être pourquoi ça m'a touché un petit peu plus. Vous avez peut-être raison. Moi aussi, à l'époque, bon, j'avais pas des parents riches mm-hmm. non plus, là. Donc, c'est sûr que je voulais faire du sport plus professionnel. Ça n'a pas été facile. Vous savez, mes parents, là, donnaient énormément d'argent, mettaient beaucoup d'argent sur moi et mon frère, parce que j'avais également mon frère, on était deux enfants. Fait que c'est sûr que on était choyés de ce côté-là.
Parce que les sports motorisés, c'est pas les sports les plus les moins chers, les moins chérants. C'est des sports qui coûtent quand même relativement beaucoup d'argent pour l'équipement, pour les véhicules.
Ah oui. C'est assez dispendieux, d'autant plus en automobile,
oui,
là, comme
oui.
on le voit. Là. C'est pour ça que je disais tantôt, on a été choyés, autant lui que moi, de ce côté-là, bon, d'avoir des gens proches qui nous ont donné des bons coups de main. Et c'est ça qui a pu rendre un petit peu plus loin dans son sport favori, là, Bertrand.
Et puis, le lien, là, définitivement, entre les deux livres, c'est, comme vous le mentionnez, la persévérance.
Vous allez souvent me voir lire des livres où, ce que justement, on voit de la détermination, évidemment, la persévérance, l'effort, la volonté. Parce qu'il faut aussi avoir la volonté de le faire. Ça, c'est pas dû à tout le monde. C'est pour ça, des fois, bon, il faut en parler. Ça va peut-être donner le goût à certaines personnes d'aller un peu plus loin.
Oui.
Je les invite à le faire de toute façon. Allez au-delà de vos rêves. Allez-y, gênez-vous pas. C'est là. Si vous avez besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un pour vous écouter. Et on l'espère.
Mais oui.
Il y a toujours quelqu'un pour vous écouter.
Donc, vous, ce qui vous intéresse un petit peu plus dans la lecture, selon vos choix, c'est pas nécessairement des œuvres de fiction, mais vraiment des œuvres qui sont enracinées dans la réalité et qui viennent nous chercher par des éléments communs de la vie de tous les jours, puis les efforts de
la
race humaine à continuer de survivre, puis de monter. Puis...
Oh, ils savent d'ailleurs, mon bureau, que j'aime beaucoup les biographies. Hein, j'en ai toujours une à portée de la main. Ça m'intéresse. Puis j'invite les gens, hein, qui vont faire d'autres biographies, ben, à venir peut-être venir me voir à l'Hôtel de Ville, hein, qui puissent me signer leur livre. Ça va me faire plaisir de le lire, là, c'est sûr.
Est-ce que vous êtes en train d'en lire une en ce moment?
Non, j'ai pas eu le temps dans les dernières semaines, okay. Malheureusement, mais c'est sûr que au cours de l'été, là, je vais prendre un autre livre. Là, pour
justement, parlant de l'été, est-ce que vous avez une petite lecture d'été plus légère que vous planifiez lire, un livre que vous glissez dans...
J'aime beaucoup les revues.
Oui?
Les revues d'un peu de tout, hein?
Mais oui, mais ça fait partie de la littérature aussi, les revues.
Oui, exactement. Ça, si vous venez chez moi, vous allez voir, je suis plein de revues, même que ma conjointe dit « t'en as trop! » Alors, c'est sûr, oui, des fois le soir, là, je rentre tard souvent, et mm-hmm. ça me permet, bon, je prends une petite revue pour me relaxer, et je vais regarder de tous les domaines, hein, autant la culture, autant, bon, peut-être moins la cuisine, là, quelque chose, on a des bons restaurants à Sherbrooke que je vais voir, là, mais j'en fais moins à la maison, là. J'aurais pas le temps non plus, mm-hmm. là, avec mon nouveau travail, mais il faut dire que tout ce qui est relatif aux autos, motos, tout ce qui est la nouveauté, là, m'intéresse beaucoup.
Pouvez-vous donner un ou deux exemples de revues auxquelles vous êtes abonné, que vous lisez des fois?
Ben, il y en a une, bon, c'est peut-être plus anglophone, là, qui est Motocross Action.
Okay.
Pourquoi que je suis attaché à cette revue-là? C'est une revue qui date des années 70, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à les faire, en 79, je ne me trompe pas. Puis j'ai eu une des premières revues. J'ai toujours continué à les suivre. Fait que j'ai vraiment vu l'évolution. Ça, je crois que j'ai à peu près 3 caisses de ces revues-là là, qui sortent quand même mensuellement, là, qui m'intéressent. Ça montre vraiment les nouveautés. Et c'est surtout que j'ai pu suivre les pilotes, les changements. Et maintenant, c'est drôle parce que j'avais les pilotes. Maintenant, je vois les fils des pilotes qui ont grandi dans ce sport-là également. Alors, c'est assez spécial. C'est comme ça. Je me suis attaché à cette revue-là, entre autres.
Ben, encore une fois, c'est un exemple de croissance humaine puis de suivi de parcours.
Ben, j'en ai une québécoise aussi qui est Motojournal, okay. Qui est encore en vigueur, là. Je les félicite parce que eux aussi, c'est des revues qui datent des années 70, là. Puis, ça l'a continué dans le temps. Alors, ça, c'est bien parce que ça nous montre les pilotes, entre autres, québécois, mais aussi toutes les nouveautés qui arrivent sur le marché. Puis, on sait qu'on voit beaucoup de motos électriques maintenant arriver. C'est la nouvelle technologie, autant en auto qu'en moto. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Il y a le projet, entre autres, à l'Université de Sherbrooke, là, EMUS.
C'est merveilleux. Oh, faites bien d'en parler. On a des génies à Sherbrooke. C'est du savoir, du partage de savoir.
Parfait. Et puis, on arrive déjà vers la fin de l'entrevue. Et puis, chez CEFAC, on fait jouer de la musique francophone, la musique québécoise.
Oui, oui, oui.
On vous a demandé de choisir une pièce, puis on va se laisser justement après l'entrevue avec cette chanson-là. On va s'aimer encore de Vincent Vallière.
Ah oui.
Et pourquoi vous avez choisi cette pièce-là?
Avez-vous regardé... Je t'émotive, dans le fond, par rapport à cette chanson-là. Il faut dire, là, regardez les vidéos. Il y en a eu plusieurs sortes, d'ailleurs. Vincent dégage vraiment les paroles. On le ressent lorsqu'il chante. Écoutez, ça montre vraiment la vie de tous les jours, hein? Peut-être de jeunesse à plus vieux, hein? Lorsqu'on a rencontré notre conjoint. Mais ça fait quand même 30 ans que j'étais avec la même conjointe.
Okay.
Et on se voit dans le temps, hein? Donc c'est à cause de ça.
Fasserie des plaines d'histoire. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Complètement démodé. Quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au bout de nos doutes, au bout de la route. Au-delà de la mort, on va s'aimer encore.
Salut, c'est Marie Vachon, Prédignon, Filion 2L. J'anime Sors de ta zone le mercredi midi. Je te jase de ce qui se passe autour de la région de Sherbrooke et je te fais sortir de ta zone de confort en te proposant des activités originales. Des fois, je râle de la marde, mais souvent, c'est pertinent. Le but ultime, c'est de te faire sortir de ta zone. Sors de ta zone tous les mercredis sur votre heure du lunch à CFAC 88.3.
Vous êtes de retour à Littéralement Vôtre. On vient d'entendre l'entrevue d'Albert avec le maire de Sherbrooke, Steve Lucier. On en a appris quand même des bonnes
Oui.
sur Steve. Il aime les motocross.
Entre autres. Mais il y a vraiment un parcours, là, puis il s'intéresse beaucoup à la littérature, là, je dirais. Tout ce qui est humain, hein, vraiment, on l'a vu avec les biographies, tout ça. Donc, l'expérience humaine, là, c'est vraiment ça qui ressortait le plus.
C'est un homme proche des gens, c'est ce qu'il a vendu pendant sa campagne. C'est ce qu'il va avoir rendu au final.
Oui, exactement.
On continue avec la seconde entrevue que tu as fait, Albert. On va y aller par palier de gouvernement.
Oui.
Donc, si on se tourne vers le provincial, tu as interviewé Mme Christine Labrie, qui est notre représentante du Parti Québec solidaire au provincial. Donc, on va écouter ce que tu as eu à jaser avec Christine.
Christine Labrie, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Tu nous es revenue avec des suggestions. La première étant « La femme qui fuit », qui est un roman de Anaïs Barbeau-Lavalette, paru chez Marchand de feuilles en 2015. Mm-hmm. Pourquoi cette œuvre-là en particulier est venue te chercher?
Je sais pas si tu as eu la chance de lire cet ouvrage-là. C'est le récit d'une femme qui abandonne ses enfants. Ça se passe à l'époque du refus global, une femme qui est impliquée dans le refus global. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions dans ce livre-là. Puis moi, je m'intéressais déjà aux enjeux qui touchent la maternité comme chercheuse, comme historienne. Puis vraiment, ce livre-là m'a tellement happée de plein fouet, ça m'a tellement émue. Il y a des moments où carrément je devais le déposer pour me remettre de mes émotions avant de continuer à lire. Puis ça a beaucoup orienté le choix de mon sujet de thèse, en fait.
Okay.
J'ai finalement travaillé sur l'abandon d'enfants à cette époque-là. La lecture, c'est un sujet qui m'intéressait avant, mais la lecture de ce livre-là a vraiment confirmé mon choix puis m'a orienté définitivement sur ce sujet-là.
C'est un livre, entre autres, qui est écrit au-dessus. Donc, il y a ce procédé-là qui vient rajouter à la forme, là. Est-ce que ça t'a touché, ce procédé stylistique-là? Est-ce que tu te souviens que ça t'a pris par surprise ou pris par les émotions un petit peu plus? Ou c'était plus l'histoire en tant que telle que la forme qui est venue te chercher?
Quelque chose qui m'atteignait beaucoup, c'est qu'en fait, c'est pas seulement de la fiction, c'est basé mm-hmm. sur une histoire réelle, celle de la grand-mère de l'auteur. Donc, c'est une histoire qui s'est produite, puis je pouvais... Dans certains points, je pouvais m'identifier à cette femme-là, puis à sa détresse. Comme mère aussi, c'est sûr que j'étais déjà mère quand j'ai lu ce livre-là, fait que c'est certain que ça m'ébranlait encore plus de le lire, sachant que, bon, on n'était pas dans de la pure fiction ici. Mm-hmm. C'est quelque chose qui s'était produit. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on sait qu'il y a de la romance là-dedans. C'est devenu une œuvre de fiction, mais basée quand même sur une histoire familiale, puis moi, c'est ça qui m'a touchée.
Oui, parce que tu l'as mentionné, justement, c'est la petite fille du personnage principal qui a écrit le livre. Entre autres, le personnage principal, c'est Suzanne Meloche. Et puis, elle était mariée au peintre Marcel Barbeau. Puis, entre autres, oui, c'est ça. Pour les personnes qui ne connaissent pas là, nécessairement l'histoire, ils se sont rencontrés là, à l'aide de Claude Gauvreau dans un concours oratoire à Montréal. Et puis, c'est là aussi que Suzanne Meloche a rencontré le groupe des automatistes. Donc, elle décide de se joindre à cette société-là. Et puis, plus son mari... prendre la distance, mais plus elle décide de se distancier de ses enfants aussi. Donc, quand tu dis que tu t'es retrouvée dans la détresse de ce personnage-là, est-ce que c'était la détresse de situation familiale ou...
Mais c'est le conflit intérieur entre poursuivre sa carrière, ses aspirations personnelles
okay.
et la maternité qui est envahissante, en particulier à cette époque-là, en particulier dans le contexte où elle se retrouve seule avec ses enfants la plupart du temps, parce mm-hmm. que c'est parce que le père, lui, la poursuit sa carrière.
Ouais, exactement.
Donc elle se retrouvait à à ne pas pouvoir poursuivre la sienne finalement parce mm-hmm. qu'elle avait des enfants. Moi, c'est pas un enjeu que j'ai vécu, mais je me suis assurée de pas le vivre quand même, tu sais.
Oui, c'est...
parce que c'est un enjeu pour les femmes encore aujourd'hui. Donc ça me touchait beaucoup de voir ce conflit-là intérieur, de voir qu'à cette époque-là, à l'époque où, bon, on était quand même à l'époque de la reine du foyer encore, là, mm-hmm. tu sais, il y en avait des femmes qui souhaitaient, qui aspiraient à vivre leur carrière professionnelle pleinement, oh oui. puis qui se retrouvaient un petit peu coincées dans l'univers de la maternité, sans possibilité vraiment de faire les deux en parallèle. À l'époque, il y avait très peu de système de garderie, tu sais, il n'existait pas l'infrastructure sociale qui nous permet aujourd'hui de jumeler les deux.
C'est une bonne œuvre, donc j'imagine que tu la recommandes à tout le monde aussi.
C'est ça que je la recommande, mais en même temps, tu sais, je sais que c'est pour un paquet de raisons, des enjeux, ouais. ça touchait des enjeux qui me préoccupaient, je l'ai lu à un moment particulier dans ma vie aussi, moi ça m'a vraiment touchée. Si j'avais lu ce livre-là à 15 ans, jamais ça m'aurait mm-hmm. atteint comme ça m'a atteint au moment où je l'ai lu. Fait que oui, je le recommande, mais en même temps, je pense que, tu sais, une œuvre littéraire pour qu'elle ait toutes ses retombées sur la ouais. personne qui la lit, il faut qu'elle arrive au bon moment, il faut qu'on soit prêt à en accueillir le contenu aussi. Donc, oui, je le recommande, mais en même temps, c'est un livre qui m'a vraiment... happé de plein fouet, moi, mm-hmm. mais...
à lire dans la vingtaine et non recommandations secondaires, peut-être.
Ben, à lire, si on s'intéresse à ce genre d'enjeux-là liés au féminisme, à l'époque du refus global, tous les frustrations que pouvait accumuler cette génération-là sur le carcan de la société à l'époque, c'est vraiment quelque chose qui va résonner à ce moment-là, si on a déjà un intérêt pour ça, oui.
OK. J'aimerais aussi parler des deux autres œuvres que tu nous as envoyées, là, vraiment brièvement, parce qu'on n'aura pas énormément de temps. Mais il y avait, entre autres, L'événement de Annie Ernaux, qui est paru chez Gallimard en 2000, qui est le parcours combattant d'une jeune étudiante pour l'avortement. Pour se faire avorter. Est-ce qu'encore une fois, dans ce roman-là, c'est la partie des enjeux féministes qui sont venus te chercher, puis c'est pour ça que cette œuvre t'a autant touchée?
Tout à fait. Puis Annie Ernaux, c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup. J'ai choisi un de ses livres là, parce qu'on okay, me okay. demandait quelques livres en particulier.
Oui, oui.
Ça, c'en est un que j'ai avalé là, d'une couverture à l'autre sans même arrêter. Il est très court d'ailleurs, de toute façon. L'œuvre d'Annie Ernaux est très, très autobiographique. Mm-hmm. En fait, c'est pratiquement purement autobiographique. Oh, là. Il y a très peu de fiction rajoutée à travers ça. C'est l'histoire de son propre avortement. J'ai trouvé que c'est un récit très, très intime qui montre à quel point c'était difficile pour les femmes d'avoir accès à l'avortement à l'époque. On parle d'un avortement clandestin.
Mm-hmm.
Donc, oui, ça m'a touchée de lire ça. Puis en ce moment, bon,
ben
on
oui,
a encore
hein?
une conversation sociale non terminée autour du sujet de l'avortement. Là. C'est toujours un sujet qui est d'actualité. Puis je pense que quand on lit un livre comme celui-là, L'événement d'Annie Ernaux, on réalise à quel point, tu sais, on peut discuter de si si on veut que l'État fournisse un accès à l'avortement ou pas, si on veut que ce soit légal ou pas, mais des avortements, il va toujours y en avoir.
Oh oui.
Il y en a toujours eu, il va toujours y en avoir, puis on mettra pas un frein à ça parce que des femmes qui ne souhaitent pas mener une grossesse à terme, pour toutes sortes de raisons, qui mm-hmm. sont propres à chaque grossesse, il y en aura toujours. Après ça, c'est est-ce qu'on veut que ces femmes-là puissent le faire de manière sécuritaire? C'est ça la question qu'on devrait se poser comme société. Parce que si on l'interdit, si on veut que ça devienne que ça reste une pratique clandestine, on met les femmes en danger. C'est ce genre de questions-là que cette œuvre-là permet d'apprivoiser.
Et puis, sinon, comme troisième œuvre, il y avait La bête à sa mère de David Goudreau. Qui est un slameur québécois. C'était son premier roman. Et puis, ça, c'est le drame familial d'un homme seul. Qu'est-ce qui t'a touché en particulier dans ce roman-là?
Ben, c'est un livre que je suis en train de lire.
Okay.
Ben, c'est-à-dire que c'est une trilogie. Là. J'amorce le troisième. Celui-là, c'est le premier tome.
Oui.
On aborde dans ce livre-là... Qui est plus de la fiction, là, alors que les deux autres œuvres ouais. dont j'ai parlé étaient plus autobiographiques. On aborde l'enjeu des services sociaux, de la DPJ, de ce qui se passe avec les enfants qui se retrouvent coincés dans le système de la DPJ. Puis moi, c'est quelque chose qui me préoccupe. Comme députée, je suis sollicitée souvent par des gens qui vivent des enjeux avec la DPJ, soit qui font des signalements pour lesquels il n'y a pas de suite, soit qui sont suivis par la DPJ et qui ont des difficultés avec ça. Puis on a vu là, dans les derniers mois toute l'histoire aussi on pense à la petite fille de Granby. Oui, oui. On sait qu'il y a une commission en ce moment qui va se pencher spécifiquement sur comment améliorer les services à la DPJ. Donc de suivre le parcours de ce jeune garçon-là dans le David Goudreau qui subit le changement en répétition de famille d'accueil. Clairement, ce jeune-là a des problèmes de santé mentale aussi. Là, j'ai trouvé ça intéressant d'aborder cette question-là du point de vue de l'enfant qui est pris dedans. Okay. Parce que ça, c'est un point de vue qu'on n'a pas eu beaucoup dans les derniers mois. On a vu les parents, on a vu les intervenants, on a vu les... point de vue juridique aussi, le point de vue de l'enfant, ça, on l'entend pas assez souvent.
Avant de se laisser, on a demandé aussi de choisir une chanson. Et puis, pour les quotas de CFAQ, évidemment, il fallait que ce soit une chanson en français, préférablement de quelqu'un d'un artiste québécois ou canadien, et puis de quelqu'un qui est un petit peu émergent, parce que c'est ça la musique qu'on joue. Et puis, tu as choisi une chanson du conjoint d'Anaïs Barbeau-Lavalette, donc on boucle la boucle avec ça. Donc, Force Océane de Émile Proutier, qui est vraiment une chanson, là, encore une fois, c'est puissant au niveau du féminisme, là. Donc, est-ce que c'est ce thème-là encore qui motive ta décision?
Je pense que oui. Je sais pas si Émile se qualifie comme artiste émergent, là.
Oui, non, ça c'est certain, mais moins joué à la radio, maintenant.
Oui, oui. Moi, la première fois que j'ai entendu ce slam-là d'Émile, c'était ici à Sherbrooke. Okay. C'était l'automne dernier, quand il est venu le faire pour la marche contre les violences faites aux femmes. Ça m'a vraiment happé, peut-être parce que je l'entendais live là, en personne. Là. Ça m'a vraiment touché. Puis ce qui me frappe beaucoup de ce slam-là, c'est à quel point... À quel point un homme est incapable de se placer dans la peau d'une femme puis de comprendre si bien ce que peut vivre une femme aussi. Je trouve que on le dit pas assez souvent à quel point les hommes peuvent et doivent être des alliés pour l'égalité des sexes. Puis je pense qu'avec ce slam-là, Émile montre vraiment bien à quel point les hommes sont capables de comprendre les enjeux qu'on vit puis de travailler avec nous pour... y remédier.
Oui, définitivement. Et puis, comme dernière question, tu as un petit peu répondu tantôt, mais je voulais te demander si tu avais une lecture d'été un peu plus légère que tu lisais. Tu dis que tu es en train de lire le troisième roman de David Goudreau, donc c'est pas très léger comme œuvre. Pas de roman de plage durant l'été pour toi?
J'essaie de reconnecter avec la littérature. Okay. J'ai beaucoup, beaucoup lu dans le passé. J'ai même déjà été libraire. J'avalais des livres là, plusieurs par semaine, mais depuis l'université, j'ai déconnecté avec la littérature beaucoup trop à mon goût. Puis là, j'essaie de m'y reconnecter cet été justement pour décrocher.
OK. Bon, décrocher d'une autre manière.
Oui, oui. Fait que je vais, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je vais apporter avec moi beaucoup de romans cet été, plus que d'habitude.
OK. Ben c'est super. Merci beaucoup, Christine Labrie, d'avoir participé à cette entrevue avec nous. Et puis, on se laisse sur Force Océane de Émile Proutier.
Merci.
Ma belle amie, qu'est-ce qui te tourmente? C'est-tu le temps qui te rentre dans le ventre? Ou tous ceux qui disent que t'as plus rien à craindre? Tous ceux qui disent que t'as plus de quoi te plaindre? Ouais, pourquoi t'aurais la gueule en berne? Fini le temps des cavernes, fini le temps des tavernes. Voici venu le temps du cash-cerne avec la panoplie d'applications de la femme moderne. Bonne épouse à poussette, porn star, spick and span, de l'entrepreneurship puis un beau suntan. Efficace de 7 à 5 et sexy au 5 à 7, t'as à peine dormi, faut que tu pèses sur reset. Puis tu t'épiles le corps, tu t'épiles la face, tu te piles sur le cœur et perds à pile ou face. Puis quand tu coules à pic, faut pas qu'on te pique ta place, ni que le mascara coule sur ta carapace. Comme une rivière qui déborde et qui arrache, sors du sillon avant qu'on te harnache. Attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache, mon ami, laisse tout cela, relève-toi puis marche. On te vend des revues qui te disent de t'aimer tel que t'es, avec 200 pages d'ados photoshopées. Puis tu perds tes dimanches à perdre du poids. Oui, t'as le cœur gros, mais ça fondra pas. Puis tu frenches et tu frenches et tu donnes ta peau. Mais pourquoi le prince se transforme en crapaud? Avoir ces morons qui te méritent pas, je me dis que Stupidon, il tire ses flèches dans le tas. Ou bien tu benches et tu benches au banc des résignés. C'est-tu mieux des poignées d'amour ou de l'amour toute poignée? Ou vivre en coulant tes désirs tout le temps, tout en couvrant de graffiti ton cœur tout graffiné. Comme un grand fleuve qui déborde et qui arrache, sors de ton lit que toute la vallée le sache. Attends plus qu'on te dise où le bonheur se cache, mon ami, laisse tout cela, relève-toi puis marche. On te somme de suivre ce que les hommes pensent, ou mieux d'apprendre à penser comme un homme. Bravo, bravo, t'es ben bonne en science, mais le pouvoir, ma belle, ça se passe en chum. Encore la peur qui perle sur ton lobe. Encore gagner moins pour la même job. Puis rager d'un sourire que tu fabriques pour avaler la blague d'un mononcle lubrique. Ça fait juste 10 000 ans qu'on te coupe la parole, qu'on te tonte ou t'écarte ou te traite de folle. Là, le vent commence à peine à virer de bord. Il y a déjà qui se plaignent que tu parles trop fort. Vive ta lumière, vive tes ombres. Vivement ta manière de dire le monde. Vivement quand tu te lèves comme une marée se lève. Que tu marches et marches et que monte à nos lèvres un hymne fou à ta force océane. Un hymne fou à ta force de femme. Ils ont bâti le monde entier sur ton dos. Si tu te lèves, tout va trembler, ça va être beau.
Vous êtes de retour à Littéralement Vôtre sur les ondes de CFAC 88.3. Avant la pause musicale qui était, ma foi, si intense.
Ah oui. Cette chanson-là, là, ce slam-là, plutôt, à chaque fois que je l'écoute, il y a les frissons qui me viennent au bras. Là,
C'était incroyable.
Ah oui.
Avant ça, on a parlé avec Mme Christine Labrie, qui a réussi encore une fois à m'étonner par son CV des plus étoffés. Elle nous a appris aujourd'hui qu'elle était libraire avant d'être chargée de cours en histoire à l'université, maintenant politicienne.
Donc, vraiment, la littérature a eu une place importante dans sa vie. Là. On a vraiment pu voir ça au travers des ouvrages qu'elle a choisis.
Oui, puis elle a parlé avec amour des ouvrages qu'elle a présentés. On a des élus, toute ma foi, tout à fait intéressants.
Oui, tout à fait.
Et on va d'ailleurs continuer dans cette lignée avec notre élu au niveau du fédéral, M. Pierre-Luc Dussault, qui est représentant du NPD, puis qui nous représente à Ottawa. Donc, on va y aller avec Pierre-Luc.
Oui, puis Pierre-Luc, qui cet automne va être en élection aussi.
Oui, tout à fait.
Donc, encore plus pertinent de savoir qu'est-ce qu'il aime lire.
Qui est-il?
Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup, toi, dans la vie?
À mes heures, j'aimerais lire plus, mais le temps manque parfois. Puis j'en ai lu quelques-uns, mais genre que je suis pas aussi assidu que j'aimerais. Puis des fois, j'en commence, puis bon, c'est laissé de côté pour un certain temps, puis je reviens. Mais non, j'aimerais lire plus, mais c'est ça, c'est des fois le temps qui manque.
Ouais, avec l'emploi du temps, des fois ça peut être un petit peu difficile. Mais ouais. J'imagine que entre Sherbrooke et Ottawa, des fois tu dois peut-être avoir des petits moments un petit peu plus tranquilles.
Ben, j'écoute beaucoup plus que je lis parce que je te mets sur la route 4 heures à aller, 4 heures à revenir. Donc, ça me permet d'être plus à l'écoute qu'en train de lire. Là.
OK, c'est bon. Donc, on va y aller tout de suite avec des œuvres que tu nous as transmises. La première, c'est Mostargia de Maya Ombasik, publié chez VLB Éditeur en 2016. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi ce livre-là il est important pour toi? Comment il est venu te toucher, ce livre-là?
Oui, tout à fait. Puis justement, j'ai eu ce livre-là à Ottawa hein, parce qu'il y a une journée c'est tout ça, chaque année des éditeurs canadiens. Donc, tous les éditeurs viennent sur la colline. Puis, bon, ils partagent des livres à tous ceux qui en veulent. Donc, j'ai eu ça à ce moment-là. Puis, la couverture m'avait bien intéressé en premier lieu. Puis après ça, l'histoire qui m'avait aussi bien intéressé, c'était l'histoire en fait d'une personne qui est venue au Canada avec sa famille. Elle était très jeune. Elle a vécu des choses très difficiles en Bosnie lors des conflits qu'il y a eu là, au début des années 90. Puis donc, elle racontait son histoire, mais aussi celle de son grand-père. Puis je trouvais que c'était une histoire très touchante qui permettait d'un peu mieux comprendre justement le parcours d'une personne réfugiée qui était d'actualité, bien sûr, à ce moment-là quand je l'ai lu. Puis donc, ça permet au lecteur de bien voir la détresse de ces gens-là dans ces situations très difficiles qui doivent fuir carrément leur mm-hmm. pays, venir s'installer dans une nouvelle terre. Donc, c'est un peu cette histoire-là qui m'avait touché dans le contexte à ce moment-là. Et puis, je trouvais que c'était bien raconté par l'auteur. Et donc, vraiment, je le recommande à tout le monde qui écoute. Là.
C'est bon. Est-ce que c'est le fait que c'était une autobiographie un petit peu qui est venue t'accrocher?
Oui, mais c'est sûr qu'en général, j'aime beaucoup les histoires vraies. Donc, okay. Je suis plus dans la réalité que la fiction mm-hmm. quand je cherche un livre. Puis, justement, oui, effectivement, la façon qu'elle le raconte, ça m'a aussi beaucoup accroché. Elle a beaucoup d'images. Et puis, justement, la couverture du livre montre une image qu'on peut retenir assez facilement avec des images très, très belles de cette région-là du monde qui invite les lecteurs aussi, je pense, à aller visiter. Donc ça fait partie de ma liste d'endroits à visiter okay. pour ces beaux paysages, justement, qu'elle raconte dans son récit-là.
Oui, beaux paysages qui, malheureusement, ont connu des moments difficiles dans les dernières années.
Exactement,
là.
Ouais.
Puis le deuxième livre aussi, c'est « Dans la nuit de Daesh, confession d'une repentie » de Sophie Kaski, publié chez Robert Laffont aussi en 2016. Donc ça aussi, c'est une autre histoire vraie, mais cette fois-ci, c'est l'histoire de quelqu'un qui se déplace en territoire de conflit.
Exactement.
Donc, qu'est-ce qui est venu te chercher dans celui-là?
Ben encore là, c'est un peu dans le contexte de ce moment-là où je l'ai lu, où on avait des histoires justement de Canadiens ou d'autres pays occidentaux qui allaient dans ces pays-là pour rejoindre l'État islamique. On s'en souvient dans cette époque-là, c'était plus d'actualité. Puis justement, c'est effectivement l'histoire inverse où au lieu d'avoir l'histoire de la personne qui fuit son pays en guerre, mais c'était le contraire, une personne qui est dans le confort en France. Qui décide de quitter son pays et même son mari avec son PFP, quitte avec son enfant. Donc, en plus, elle prend une décision assez surprenante, si on veut, pour nous ici, de décider d'aller dans un autre pays pour justement joindre les rangs de l'État islamique et combattre pour cette milice, si on veut, là, qui était installée là-bas. Donc, l'histoire inverse où là, on se demande qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un pour justement prendre cette décision-là à un certain moment dans sa vie. Puis, elle raconte aussi toute l'histoire qui s'est déroulée après et la réalité qu'elle a vue tout de suite en arrivant, que finalement, la belle image que ça projetait de ceux qui l'ont enrôlé, finalement, c'était pas du tout le paradis là-bas, puis c'était très difficile. Puis, elle a rapidement été désenchantée, a voulu revenir, et là, tout son parcours vers son retour à son pays a été parsemé beaucoup d'embûches, mais donc c'est une histoire très touchante également avec son enfant et tout ça. Donc ça a été quand même une histoire qui m'a touché au moment justement où c'était d'actualité, ces histoires de Canadiens ou d'autres qui quittent pour aller combattre pour l'État islamique.
Est-ce que c'est un livre qui t'a permis de comprendre un petit peu plus le processus psychologique qui fait que quelqu'un partirait du Canada justement pour aller rejoindre l'État islamique?
Ouais, mais justement, ça permet de comprendre, d'essayer de se mettre dans la peau de cette personne-là, dans son état d'esprit à ce moment-là, puis peut-être d'un peu mieux comprendre les raisons qui poussent ces gens-là à quitter. Puis justement, quand on comprend mieux les raisons, mais ça permet peut-être de mieux s'assurer qu'il y en ait pas d'autres, ou de mettre les mm-hmm. conditions pour que ces gens-là qui seraient tentés, ben on puisse les rattraper avant qu'ils quittent. Donc, je pense qu'en tant qu'élu, mais ça permet d'essayer de voir des pistes de solutions lorsqu'on comprend mieux un problème, comprend mieux l'état d'esprit d'une personne, mais on peut peut-être plus essayer de contrer ce phénomène-là. Puis au Canada, mais je pense que c'est important, ça a été important, ça l'est encore. Il y en a qui reviennent même dans les derniers mois. Et il y a des débats sur le retour de ces personnes-là, mm-hmm. des Canadiens qui sont allés combattre. Donc c'est encore un sujet d'actualité, mais je pense que ça permet au moins de peut-être essayer de mieux comprendre leur situation et effectivement leur état psychologique quand ils ont pris cette décision.
Puis justement, tu le mentionnais, les deux œuvres que tu nous as transmises, c'est des histoires vraies. Ce que tu lis, tu l'as dit aussi, t'aimes plus les histoires qui ont racine dans la réalité. Est-ce que c'est parce que ces histoires-là viennent plus te chercher? Est-ce que c'est parce que quand c'est de l'imaginaire, tu ressens une moins grosse connexion avec les personnages dans cette tendance-là dans tes lectures?
Bon, c'est plus effectivement de le manque de connexion avec la réalité. Où moi, j'aime ça, j'aime beaucoup apprendre, donc j'aime ça avoir bon des faits, puis que je puisse aussi peut-être me raccrocher à des lieux qui existent vraiment. Donc, se raccrocher à certaines choses qu'on pourrait même aller visiter éventuellement, tu sais, qu'on peut savoir que ça existe. Donc, je suis plus dans cette optique-là, bien que j'en ai lu aussi des fictions, mais je pense que c'est un peu ceux-là qui m'accrochent plus parce qu'on. C'est effectivement, j'ai peut-être une connexion un peu plus grande avec les personnages où on sait qu'ils existent vraiment et mm-hmm. qu'ils ont vraiment vécu ces situations. Donc, ça permet pour moi de peut-être plus m'accrocher à l'histoire puis continuer à lire.
Mais, oui, je voulais savoir, en fait, ces livres-là que tu nous as transmis, bon, c'est pas recommandé pour tout le monde, bien mm-hmm. sûr. On lira pas ça au secondaire, par exemple. Okay. À qui tu recommanderais ces œuvres-là?
Ben, des gens qui sont intéressés justement à en apprendre davantage sur l'état peut-être psychologique, la détresse dans certains cas aussi de ces personnes-là pour essayer de mieux comprendre. Autant la personne qui quitte son pays en guerre, qui arrive ici au Canada, puis d'essayer de se mettre dans la peau de ces personnes-là, puis essayer de comprendre des fois leurs difficultés peut-être rendues ici, à s'adapter, puis bon, à avoir un réseau, à s'intégrer dans le travail et tout ça. Donc, je pense que c'est des gens qui pourraient être intéressés par justement ces histoires-là, puis d'essayer de se mettre dans leur peau. Et à l'inverse, ben essayer de comprendre comment, pour nous, c'est comme impensable de quitter notre pays pour aller dans une zone de guerre. Donc, d'essayer de comprendre comment quelqu'un, un enfant en plus qui l'emmène avec elle, peut se rendre à cette décision-là. Puis, justement, essayer de trouver un peu d'empathie dans tout ça, puis de dire, bon, mais ça pourrait arriver à tout le monde, peut-être aussi. Donc, puis justement, bon, essayer de déceler les signes, puis peut-être réussir à aider quelqu'un dans le futur. Donc, je recommanderais ça à tous ceux qui sont intéressés par ces sujets, puis la question des réfugiés, ou à l'inverse, ceux qui quittent pour des raisons qu'on s'explique mal là, par la suite.
Parfait, merci. Là, c'est l'été. Est-ce que tu as des petites lectures d'été que tu fais, un petit livre que tu traînes sur le bord de la plage ou des fois sur le bord de la piscine, si jamais tu as le temps d'aller à la piscine?
J'en ai pas en ce moment, donc j'ai essayé d'en commencer un il y a quelques semaines. Qui était peut-être moins léger. Là. Je me le suis fait donner par quelqu'un qui est venu à mon bureau dans un. Ça fait comme, je pense, 2 ans que je l'ai reçu, ce livre.
Okay.
Puis bon, il traînait sur ma bibliothèque depuis un certain temps. J'ai dit, bon, il y a quelques semaines, j'ai dit, je vais essayer de commencer un livre. Mais le titre, c'est Rosalia.
OK.
J'oublie l'auteur, malheureusement. Mais. Ça a l'air d'être assez intense, les premiers chapitres que j'ai lus. Donc, on va voir si je vais continuer ça.
Ben écoute, avec les livres que tu lis, ils ont l'air assez intenses, justement. J'imagine que des fois, ça doit être un peu difficile là, à la fin d'un livre de devoir le mettre de côté et puis d'essayer d'absorber toute l'histoire puis tout ce que tu viens de vivre au travers des mots. Là.
Oui, c'est sûr. Des fois, ça reste en tête. Justement, ces deux exemples-là, c'est deux que, quand j'ai fait ma petite recherche dans mes dernières lectures, ben, c'est deux qui m'avaient touché, puis que je me rappelais très bien aussi des deux histoires. Puis justement, pour ça que je les ai recommandées. Puis je pensais que ça pouvait être une bonne discussion à avoir à votre micro. Là.
Oui, en effet. Et puis, pour terminer, on avait demandé aussi une chanson, de nous transmettre une chanson qu'on va faire jouer par la suite, à la suite de l'entrevue. Et puis, tu as choisi Le ciel est backorder de Tire le Coyote. Pour quelle raison cette chanson-là?
Ben, tout simplement, d'abord la voix qui est très accrocheuse.
Oui.
J'aime bien sa voix, Tire le Coyote, puis qui est un artiste quand même, on peut pas dire nécessairement émergent, rendu aujourd'hui.
Oui,
il est assez bien connu, mais quand même, qui sa voix d'abord m'accrochait, puis bon, le texte ensuite, évidemment, où on parle d'une histoire d'un ami qui a des problèmes de santé, puis qui est à la fin de sa vie, puis bon, toute cette histoire-là de maladie, puis de faim, et qu'on doit dire au revoir, donc, puis qu'il y a quand même certaines lueurs d'espoir, mais je pense que c'était surtout cette histoire-là un peu triste quand même, mais un peu aussi remplie d'espoir, puis justement d'amour, d'amitié dans tout ça, là.
Quand ton corps est une cage où l'on enferme la maladie. Tu veux reprendre le tirage sous prétexte de tricherie. Le temps prépare un carnage, il plaidera sans doute la folie. Toi, tu la dévisages pour lui voler des morceaux de vie.
Laisse-moi pas, on brûlera.
Vous êtes de retour sur les ondes de CFAQ 88.3 et malheureusement, c'est la fin de notre émission sur les élus. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va avoir un spécial, les correspondances d'Eastman, avec probablement les entrevues avec les personnes qu'on va croiser au festival. On va essayer de vous trouver le contenu le plus intéressant pour notre dernière émission de la session. En attendant, lisez.
Oui, lisez. Toujours lisez plus de livres.
Toujours. Donc, merci beaucoup et dans le fond... C'est pas mal la fin pour CFAQ, fait que tu peux connaître des spoilers et les Lettres du métal sont pas là pour ce soir, mais ils seront de retour à l'automne, même plage horaire.
À la semaine prochaine!